Place Info.
Bonsoir, les Français plutôt inquiets hein, face à la réforme des retraites. C'est dans notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info Le Figaro. Nous évoquerons également ce soir eh bien, la candidature Villani, Bernard Cazeneuve, sauveur peut-être du PS et le Brexit. Toujours dans le fog à Londres, c'est dans les informés avec Véronique Relsoult, la présidente de Dentsu Consulting, avec Pascal Jalabert, rédacteur en chef des informations nationales des quotidiens du groupe Ebra, avec François Reinhardt, journaliste à l'Obs, et faut-il le rappeler, écrivain, avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Eh bien, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bienvenue, nous sommes ensemble comme tous les soirs jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Les trois quarts des Français estiment donc que le système actuel des retraites ne permet pas de bénéficier d'une retraite correcte, selon notre enquête Odoxa, Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro, réalisée hier et aujourd'hui sur Internet auprès d'un millier de personnes. Les explications, les précisions de Céline Brac, la directrice générale d'Odoxa, et nous débriefons ensuite.
C'est bien parce qu'ils considèrent que cette retraite n'est pas suffisamment importante, que les Français n'aiment pas le système actuel. C'est surtout à cause de cela. Aujourd'hui, on a 72% des Français qui considèrent que ce système ne permet pas de bénéficier d'une retraite correcte. Là, quand on leur demande, est-ce que finalement vous pensez que c'est vraiment la bonne méthode, les Français considèrent beaucoup plus que c'est une stratégie politique qui vise à désamorcer la situation. On voit quand même que les Français ont tendance, au fur et à mesure des années, à se dire que c'est un système qui n'est pas très viable et qu'il faut pouvoir transformer. Et le fait que le président de la République ait parlé de la durée de cotisation plutôt que de parler de l'âge légal, on voit que c'est quelque chose qui a tendance à plutôt rassurer les gens.
Voilà pour ce résumé de Céline Brac. Si j'ai bien compris, Véronique Relsoult, les Français eh bien, ils ne veulent pas du système actuel, mais ils estiment eh bien que le gouvernement serait incapable de le réformer.
En fait, c'est plus un sujet de défiance. Oui, ils ont envie que ça change. Oui, ils considèrent que, en tout cas, le système actuel ne permet pas d'avoir des retraites suffisamment importantes. Mais par contre, leur sujet est de dire il y a une forme de défiance. Alors évidemment, selon la typologie des gens que vous interrogez, 67% des Français globalement pensent qu'ils ne vont pas y arriver. En tout cas, qu'il n'y aura pas une réforme très importante. Si vous regardez les sympathisants de La République En Marche, c'est 76%. Donc il y a quand même un sujet un peu différent. Ouais. Mais globalement, ils considère qu'il faut réformer, mais c'est plus l'inquiétude sur comment ça va se faire, jusqu'où on ira et quelles sont les modalités exactes de cette réforme.
Alors Pascal Jalabert, ce n'est pas forcément une contradiction. Hein. Il y a à la fois une certitude, ça ne marche plus, et une inquiétude. Comment réformer ?
Oui, alors je crois que cette enquête, et puisque nous pouvons lire également dans nos colonnes ou sur les réseaux sociaux, traduisent deux choses. C'est d'abord de la part de nos compatriotes une exigence de justice toute simple, c'est-à-dire celui qui a commencé à travailler tôt peut partir plus tôt que celui qui a commencé à travailler tard. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils répondent que oui, allonger la durée de cotisation, ça va dans le bon sens, plutôt que fixer un âge pivot. La deuxième exigence, c'est une exigence de clarté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre le rapport de Levoy, les déclarations d'Emmanuel Macron, la différence entre les âges, la période de transition, on a du mal à comprendre cette réforme. Donc du coup, je crois que cette double exigence, justice et clarté, c'est ce que traduit cette enquête d'opinion. Et en effet, les Français attendent des réponses là-dessus. Il va falloir rester dans le flou, mais pas très longtemps non plus quand même.
François Reinhardt, on entend des responsables de la majorité nous expliquer qu'au fond, le gouvernement fera œuvre de pédagogie. Au fond, ça va passer. C'est un brin bisounours finalement, tout ça. Hein.
Alors, il y a autre chose que je veux répondre à votre question, oui. Ça c'est sûr, mais il y a autre chose que je voulais dire avant.
Allez-y.
Une question que je me pose sur le sondage. C'est est-ce qu'on a dedans, est-ce que dans le sondage, on a les tranches d'âge? Parce que ce qui m'intéresserait, moi, de savoir, c'est alors, est-ce que les gens qui sont à la retraite sont contents de montant des retraites? Parce que la plupart des Français n'ont aucune idée. Donc, ils disent qu'ils sont pas contents des retraites, mais ils n'ont aucune idée. Moi, je ne sais pas combien je vais toucher à la retraite. C'est très flou, tout ça. Mmh. Et la plupart des gens ne savent pas. Donc, il y a une idée commune. Il y a une idée commune dans la population qui est les retraites, ça ne va pas, etc. Mais c'est un truc qu'ils entendent, mais ils ne le savent pas concrètement.
Véronique Relsoult, répondez.
Est-ce qu'on sait chez les plus de 70 ans, par exemple, qui sont tous en retraite, forcément?
Alors, répondez. Généralement, les Français considèrent qu'ils ne touchent pas assez pour ceux qui touchent
la retraite.
Une retraite. Ils considèrent qu'elle n'est pas... En fait, le terme qu'ils utilisent plutôt est pour dire qu'elle n'est pas... décente et qu'elle ne correspond pas à ce qu'ils attendaient. Et puis après, pour les autres, plus vous vous rapprochez de la date de l'échéance retraite, vous avez une vague idée quand même de ce que vous allez toucher avec le système actuel. Et donc, il y a un clivage, mais il n'est pas si évident que ça.
Pas si tranché que ça.
Et ensuite, les personnes qui aujourd'hui sont à la retraite ne sont pas satisfaites dans leur majorité.
Et François Reynard, sur la pédagogie nécessaire qui nous est vendue les responsables de la majorité.
Je pense que sur le... Alors, moi, j'ai interrogé le grand spécialiste des retraites à l'Obs qui s'appelle Baptiste Legrand, qui travaille là-dessus, qui connaît tout ça très bien. Et lui, il me disait qu'il y avait quelque chose qui le frappait beaucoup. C'était deux choses différentes. Il y a, d'une part, le gouvernement, comme avant toutes les réformes des retraites, joue sur le côté les caisses sont déficitaires, on est paumé, on est dans le rouge, ça, on pourra pas financer, etc. Ça, selon lui, selon le spécialiste de l'Obs, ça c'est faux, ça. C'est-à-dire que le système des retraites aujourd'hui, je crois que il m'a donné les chiffres, les retraites en général, ça coûte 320 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, et le déficit c'est 10 milliards, donc c'est très peu par rapport, 320 milliards, 10 milliards, ça veut faire du 3%, ça, ou quelque chose comme ça. Ça c'est une chose, mais l'autre chose, donc ça c'est une chose sur laquelle joue le gouvernement, mais qui peut être contesté. Mais l'autre chose sur laquelle joue le gouvernement, c'est on va clarifier le système. Il sera uniformisé avec ce système de réforme à points pour que tout le monde comprenne. Et ça, c'est plutôt une bonne chose.
Mais Gilles Bernstein, besoin de clarté quand même dans tout ça.
Ah bah c'est sûr qu'on comprend rien du tout. Enfin, surtout, on avait l'impression que c'était fait. Ça fait 18 mois que Jean-Paul Delevoye écoute tous les syndicats. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a rappelé exactement les mêmes pour leur poser les mêmes questions, pour qu'ils redisent les mêmes choses qu'on savait tous déjà.
Comment est-ce que vous interprétez cette séquence? On va entendre tout dans un instant les responsables syndicaux et même Jean-Paul Delevoye.
Ça me paraît politiquement assez simple. Il y a eu les gilets jaunes. Donc là où Emmanuel Macron voulait aller vite, maintenant il faut aller doucement. Là où il veut faire seul, faut faire à plusieurs. Il décidait de tout. Maintenant, on a l'impression qu'il veut donner l'impression qu'il ne décide plus de rien tout seul. Il ne faut pas brusquer le corps social, donc faut aller lentement. Et puis ça, si ça enjambe les municipales, c'est tant mieux.
Allez, nous allons poursuivre l'analyse de cette enquête Odoxa Dentsu Consulting. Pour l'heure, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Augustin Arrivé.
Les consultations reprendront demain à Matignon. Les syndicats reçus depuis ce matin par Édouard Philippe pour parler de la future réforme des retraites. Négociation qui sera longue et compliquée d'après la CFDT. Le MEDEF espère au contraire que tout sera réglé dans la première partie de l'année prochaine. Un mort, 11 blessés avant-hier à Schiltigheim. Et ce soir, le principal suspect de cet incendie criminel a été mis en examen. Un homme de 22 ans, soupçonné d'être un récidiviste, il a avoué les faits sans donner d'explication. Il avait déjà été condamné il y a 5 ans. C'est un immeuble HLM de la commune alsacienne qui a pris feu. Le crash du Rio Paris, non-lieu, prononcé aujourd'hui à la fois pour la compagnie Air France et pour l'avionneur Airbus. 10 ans après le drame, l'association Entraide et Solidarité AF447 annonce sur France Info qu'elle va faire appel. L'avion s'était écrasé dans l'Atlantique, 228 personnes à bord, aucun survivant. Ce soir, les côtes américaines verront arriver l'ouragan Dorian. Il cause déjà des inondations en Caroline du Sud. Ouragan rétrogradé en catégorie 2, l'échelle de puissance compte 5 niveaux. L'archipel des Bahamas a été ravagé en début de semaine avec 70 000 personnes qui ont besoin d'une aide d'urgence. Les autorités comptent pour l'instant 20 morts, mais c'est un bilan très provisoire. L'américaine Serena Williams n'est plus qu'à 2 matchs de son 24e titre en Grand Chelem. La joueuse de tennis disputera ce soir les demi-finales de l'US Open. Ce sera contre l'Ukrainienne Elina Svitolina.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Allez, Véronique Rel-Soult, la défiance, elle est grande. Il y a un chiffre, c'est 67% des Français qui estiment que ce gouvernement ne va pas mener cette réforme d'envergure à son terme. On va d'abord écouter, c'est Augustin Arrivé qui évoquait ce deuxième round de concertation à Matignon. On va écouter Yves Verrier, c'est le secrétaire général de Force Ouvrière. D'ailleurs, il était l'invité d'un 18-50 de France Info cette semaine. Il nous avait bel et bien dit que FO allait s'opposer au système par points.
Nous sommes déterminés. Et nous verrons comment on arrivera ou pas à convaincre de notre raison à faire en sorte d'empêcher ce régime unique par points. Si on veut gagner, je l'ai dit, et nous sommes en contact permanent avec les uns et les autres, je parle des confédérations syndicales, il faudra arriver à une unité d'action syndicale la plus large possible.
Alors, Véronique Rel-Soult, c'est un message qui sera martelé par les certains partenaires sociaux, pas tous.
Pas tous. Non, je me trompe, la CFDT est pour.
Elle est pour. Non, régime par points. Donc, est-ce que ça va entrer dans les consciences?
En fait, le sujet qui est rentré dans les consciences, c'est quand on regarde quels sont finalement les débats les plus importants, au-delà de la peur, de l'inquiétude, voilà, quel est le sujet le plus débattu sur les réseaux sociaux en particulier. C'est assez intéressant parce que les gens deviennent assez experts, échangent des modalités de calcul. Enfin voilà, ils savent, eux, aujourd'hui, comment ça fonctionne. Le sujet principal, c'est les points. C'est pas tant les années. J'étais étonnée parce qu'on en ressortait.
Ce qu'évoquait Yves Verrier, hein, voilà. le système par points.
Le système par points, c'est ça le vrai sujet. Et quand je fais un nuage de mots en essayant de ressortir quels sont les mots les plus utilisés sur l'ensemble des 98 700 messages qu'il y a eu cette semaine, donc ça prouve que c'est un vrai sujet d'inquiétude en tout cas et d'intérêt certainement, eh bien c'est le mot « point » qui ressort plus que le mot « année ». Et autour du mot « point », quand on regarde, la question qui se pose, c'est finalement comment ça va fonctionner, et le vrai débat, c'est combien vaut un point et comment on va calculer ce point. C'est la seule vraie question qui
est logique, parce que qu'on compte en âge, tout le monde comprend ce que veut dire partir à 63 ou 64 ans, tout le monde comprend ce que veut dire travailler 42 ans et demi ou 43 ans, mais personne ne sait ce que sera la valeur du point.
François Reynard. Déjà, tu as eu ce bonheur d'avoir le truc de la CNAV, où tu vois le truc de retraite, c'est incompréhensible.
Non, mais bien sûr.
Donc le système actuel est incompréhensible. Donc
mais
peut-être que le système par points, ce sera mieux.
Oui, mais c'est pas
possible. Attendez, objection de Pascal Jalabert.
Petite objection, je crois qu'il y a eu des progrès de fait. Si aujourd'hui vous connectez sur le site de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou de la CARSAT, on vous donne très précisément l'âge auquel vous aurez droit à votre retraite
à taux plein. C'est pas ça qui est incompréhensible.
Et on peut avoir quelques simulations aussi.
Oui, voilà. Non, ça c'est bien
fait. Alors qu'en revanche, sur les points, on ne sait rien.
Alors, précisez votre pensée, François Reynard.
Ce qui est mal fait, c'est que quand on cotise comme probablement autour de cette table, on est beaucoup à être comme ça, où on cotise dans divers endroits, on écrit un livre, on est journaliste, on a fait d'autres métiers, etc. Comme plein de gens, on change. Et ben là, on ne sait pas à quoi cotisé, pourquoi, comment,
c'est
etc.
C'est simple pour le système linéaire.
Dans la forme des retraites aujourd'hui.
Mais si, le système des points, il est pour clarifier ça.
C'est ce que pensent les Français, parce qu'à 68%, ils trouvent que c'est trop complexe.
Actuellement. Et donc, le système des points, il est fait pour clarifier ça. C'est le principe, c'est uniformiser.
Alors, je suis d'accord avec François, c'est que le système actuel, il est fondé sur le fait que les salariés ont des carrières linéaires. C'est-à-dire, vous rentrez dans une entreprise à 20, 25 ans et vous y restez 25-30 ans, ou si vous changez, c'est dans la même filière. Alors que c'est vrai que le monde du travail aujourd'hui n'est plus comme ça.
Il a évolué,
les carrières sont hachées.
Et ce sera de plus en plus.
Et ça sera de plus en plus. Donc en effet, c'est là que le système des points doit corriger tout ça. Mais il faut qu'il soit lisible.
Si j'entends bien autour de cette table, les uns et les autres, corrigez-moi si je me trompe, vous validez quelque part ce système par points que le secrétaire général de Force ouvrière et la CGT veulent combattre.
Moi, je serais content d'entendre les arguments pour lesquels ils sont contre. Parce que j'ai compris qu'il était contre, ce monsieur, mais j'ai pas compris pourquoi.
Non, en fait, ils sont contre. Ils sont pas.
Gilles Bernstein.
En fait, ils sont contre de dépouiller les partenaires sociaux de la fixation du montant et des modalités des retraites. Depuis la libération, on vise.
Oui, c'est les partenaires sociaux.
Voilà, c'est les partenaires sociaux, donc le paritarisme, patronat, syndicat, qui fixent le montant des retraites. Et ils sont tous très contents, ils se combattent, mais ils sont tous très contents de ce petit entre-soi qui leur permet de faire leur truc. Emmanuel Macron a dit, mais il l'avait dit dès la campagne, c'est le cas également pour l'assurance chômage, non, c'est l'État qui, et c'est vrai que c'est un système par points, désormais c'est d'une certaine manière l'État qui fixera la valeur
du
point en fonction des ressources
nécessaires
au moment donné.
C'est la grande crainte des organisations syndicales.
Et les partenaires sociaux ne veulent pas être dépossédés de cette capacité de fixer le montant des retraites.
François Reynard, je vous demande un instant, on va écouter, vous l'évoquiez tout à l'heure, Laurent Berger, justement, le secrétaire général de la CFDT, qui est plutôt favorable à ce régime à venir, hein, vraisemblablement, par points. Écoutez ce qu'il a dit à la sortie de cette réunion à Matignon, lui qui a évoqué d'ailleurs une forme de négociation un peu compliquée.
C'était un rendez-vous pour sonder la façon dont ça se passera en termes de sujets qu'on voudrait mettre sur la table. Nous, on en a évoqué un certain nombre, notamment la pénibilité, évidemment, la possibilité d'avoir des retraites progressives, le minimum de pension. CFDT a redit que la question d'un âge pivot collectif était profondément injuste. Et donc, nous avons redit que ça stigmatisait le débat, en plus, sur une question d'âge. Et qu'encore une fois, ce dont il est question, c'est d'un régime des retraites plus juste.
Alors, ça a été dit et redit, hein, le président de la République a, on va dire, mis de côté un temps cette histoire d'âge pivot pour séduire. On vient d'entendre Laurent Berger séduire la CFDT, mais quelle que soit la formule choisie, âge pivot, 64 ans ou durée des cotisations, comme l'a expliqué le président de la République, enfin, quelque part, il y aura toujours, Pascal Jalabert, dans les deux cas, un bonus-malus au bout du voyage.
Alors oui, puisque ce qui a été promis, c'est que la retraite se ferait en moyenne constant. Aujourd'hui, François citait des chiffres tout à l'heure, c'est à peu près 14% de la richesse française du produit intérieur brut qui est consacré aux pensions. Donc on ne dépassera pas ça. Ce qui fait que si on veut donner plus à certains parce qu'on les estime lésés, ben, il faudra enlever à d'autres. Donc du coup, l'une des questions aujourd'hui que se posent beaucoup de nos concitoyens, c'est vais-je être gagnant, vais-je être perdant.
Ça, c'est la grande question.
Comme dans toutes les réformes. Oui. Et là, on sait qu'il y aura des gagnants et des perdants. Je vais juste citer un exemple. Dans le rapport de Levoix, il est prévu que les personnes qui ont un seul enfant voient leur retraite majorée de 5% de plus. Aujourd'hui, c'est réservé aux personnes qui ont eu trois enfants qui voient leur pension majorée de 15%. Là, il s'agit, en créant les 5%, de donner un peu plus à ceux qui n'ont qu'un enfant, mais en contrepartie, on va baisser à 10% ceux qui ont eu trois enfants. Donc ça fait des gagnants et des perdants.
Véronique Reilsoult,
et tout le système va être comme ça.
Oui. Véronique Reilsoult, l'âge de départ, l'âge de 62 ans, l'âge pivot, on en parle ?
On en parle, mais de nouveau, c'est pas le cœur de la question aujourd'hui. Leurs deux sujets, c'est comprendre en fait quelle est l'orientation.
C'est moins un sujet, ça.
C'est un sujet, évidemment, mais c'est pas celui qui cristallise le plus les débats aujourd'hui. Leur sujet, il est plus d'essayer de comprendre finalement comment va être effectuée cette consultation, pourquoi elle a lieu. Et puis, l'autre chose qui...
C'est-à-dire que les gens ont compris qu'ils allaient travailler plus, ou l'ont intégré du moins.
Alors, la phrase qu'on peut lire le plus souvent, c'est « On a compris, il faudra travailler de plus en plus longtemps pour gagner de moins en moins ». Ça, c'est sûr, partout, on l'a compris.
C'est assez pessimiste, comme constat.
Oui, mais aussi empreinte pragmatiste, parce qu'il y a beaucoup de postes où ils expliquent, on voit bien que dans une réforme, il y a des gens qui vont devoir payer plus, et des gens qui vont devoir travailler différemment. On a des modes aujourd'hui de travail qui sont très différents, et d'ailleurs dans le sondage on voit bien ça ressort pour 75% des gens, ils pensent que ça n'est pas adapté parce que les parcours professionnels ne sont plus les mêmes, et donc du coup globalement le pragmatisme fait que c'est pas tant qu'il soit très lucide, c'est que voilà.
Allez, on va rester sur les retraites et sur notre enquête Odoxa Dentsu Consulting France Info Le Figaro. Tout d'abord 20h20, rappel de l'info avec vous Augustin Arrivé.
La candidature de Cédric Villani est un problème de gestion des ressources humaines de La République En Marche. Réaction sur France Info de David Belliard, le candidat d'Europe Écologie Les Verts pour les municipales à Paris. Hier, le mathématicien a déclaré sa propre candidature en court-circuitant Benjamin Griveaux, désigné par le parti. David Belliard estime par ailleurs que l'écologie n'est pas une étiquette marketing qu'on prend selon le contexte politique. Fin de citation. 80 cités éducatives désignées par le gouvernement, une nouvelle liste de quartiers défavorisés. Ils bénéficieront d'aides financières pour des activités scolaires et périscolaires. Un peu plus de 100 millions d'euros au total sur 3 ans. C'est l'un des vestiges du plan Borloo remis à l'Élysée l'an dernier. La compagnie aérienne Aigle Azur annule tous ses vols prévus à partir de demain soir. Compagnie française placée en redressement judiciaire. La direction estime que la situation financière ne permet plus ces décollages des destinations principalement vers l'Algérie. Encore une démission autour de Donald Trump. Il s'agit de son émissaire pour la paix israélo-palestinienne. Il s'appelle Jason Greenblatt. La publication de son plan de paix a été repoussée. Le président américain le remercie tout de même sur Twitter en parlant d'un grand ami et d'un magnifique avocat. La France contre la Lituanie, ce sera le prochain match des Bleus après-demain dans les championnats du monde masculin de basket. L'équivalent d'un 8e de finale puisque les Français sortent en tête de leur groupe. Ils ont battu tout à l'heure la République dominicaine 90 à 56.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquilin.
C'est le troisième point du sondage, on y vient, 6 Français sur 10 qui considèrent que la fameuse grande concertation qui arrive sur les retraites et surtout une stratégie politique pour désamorcer les contestations. Je vous propose d'écouter tout à l'heure, c'est l'homme au cœur de la réforme, c'est évidemment Jean-Paul Delevoye, le nouveau quasi-ministre. Il est haut commissaire auprès d'Agnès Buzyn et il est en charge des retraites au gouvernement. Il l'a dit, des mots ronds, dialogue, franchise, transparence. Voilà ce qu'il a dit donc à la sortie sur le perron à Matignon. Tendez un petit peu l'oreille, il y avait un petit peu de courant d'air dans la cour.
Le dialogue, c'est d'abord la franchise, la transparence et le respect des positions de chacun. Et donc nous savions dès le départ, mais depuis un an et demi, que la CGT, FO, est opposée à la remise en cause des 42 régimes. Et nous estimons qu'il y a au contraire une formidable opportunité pour la société française de bâtir un modèle de protection sociale nouveau, basé sur l'équité, les mêmes règles pour tous, un métier identique, retraite identique.
Gilles Bornstein, sourire, hein, tout sourire, ce sont des mots apaisés, hein, c'est le nouveau style.
Je trouve ce nouveau style assez emblématique et me pose des questions. Et pourquoi Emmanuel Macron est... Enfin, pourquoi ? J'ai pas la prétention de savoir pourquoi, mais un des diagnostics qu'avait posé Emmanuel Macron, c'était une sorte de déficit démocratique. Pour le dire différemment, c'était que ce pourquoi les Français votaient n'arrivait jamais dans leur quotidien. Et pourquoi il y avait ça, disait-il ? Justement parce qu'il y a cette espèce de démocratie qui fait que on papote, on fait des tables rondes, on fait des grenelles, on fait ceci, on fait cela, on fait plaisir aux uns et aux autres, et finalement ça n'avance jamais. Donc on croyait, c'était pas du tout un social-démocrate finalement, c'était quelqu'un qui voulait arrêter ça, qui voulait que ça aille plus vite. Et finalement, 2 ans après, il est obligé de revenir à une méthode plus lente, qui ressemble à la méthode de François Hollande, où, et Jean-Paul Delevoye vient exactement de le théoriser, où on demande à des gens, on sait exactement que FO et la CGT sont contre une réforme systémique, on le sait, que la CFDT est prête à certaines conditions, on le connaît par cœur. Donc là, ils sont en train de perdre du temps, de demander à des gens ce qu'ils savent déjà, et finalement, Emmanuel Macron est en train de faire très exactement ce qu'il dénonçait précédemment.
Vous êtes d'accord avec ce point de vue, François Reinhardt, cette espèce d'étirement du temps, au fond, pour essayer d'apaiser, c'est ce mot qui est très à la mode, décidément, d'apaiser un petit peu les éventuelles colères.
Non, je suis pas tout à fait d'accord, parce que d'abord, je trouve que ça se passe à toutes les élections. C'est-à-dire que toutes les élections, il y a le nouveau président qui arrive en disant avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. C'est un classique des élections. 81, c'était ça, mais Chirac, 95, c'était ça, Sarkozy, 2007, c'était ça, sur les retraites aussi, et ça s'est effondré très rapidement après. Bon, voilà, toujours sur, très souvent sur la question des retraites. Donc, bon, ben voilà, là, quand je vous entends dire, les Français pensent que la concertation, c'est une manière de déjouer la contestation. Oui, je confirme, la concertation, c'est une manière de déjouer la concertation. Ça s'appelle précisément la démocratie. Donc, qu'on discute, etc. Et cet étirement du temps dont parlait Gilles Bornstein, c'est aussi peut-être une manière de faire de la pédagogie, c'est de comprendre que, voilà, qu'il faut résoudre des questions, parce que c'est des questions importantes à résoudre.
Véronique Reilsoult, les Français, j'aime pas trop dire les Français, enfin l'opinion, les gens, les hommes, les femmes ont envie de dialoguer.
Ils ont envie de dialoguer, mais je suis pas certaine que si l'objectif était d'apaiser la contestation, ça marchera forcément, parce que le mot qui ressortait le plus, c'était le mot entourloupe. C'est-à-dire qu'en gros, les gens disent, ouais, mais il y a un rapport de Levoye où, en gros, il y a à peu près tout décrit. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va repartir dans une concertation? Donc, ça veut pas dire qu'ils sont contre la concertation, c'est qu'ils disent, dans le fond, ça va prendre du temps, mais on sait à peu près où on va arriver. Et comme quand on regarde ce qui se dit aujourd'hui, on comprend rien, ça ne va pas nous apaiser plus que ça, les inquiétudes sont là, elles vont grandissantes, les peurs aussi, et puis on voit qu'il y a quelques professions qui sont pointées du doigt comme étant déjà des grands perdants, comme les infirmières par exemple, on pouvait le lire dans beaucoup de messages, donc est-ce que ça va fonctionner pour apaiser?
Et puis il y a la question des régimes spéciaux aussi, qui va se poser, comme souvent.
Pascal Jalabert, je rappelle que le groupe Ebra a réuni des grands titres de la presse quotidienne régionale, du Grand Est de la France. Que disent vos lecteurs, au fond, là-dessus, sur les retraites?
Je crois que le climat social, il ne faut pas oublier, la crise des Gilets jaunes, c'était il n'y a pas si longtemps, et puis... Il y a des professions, on a cité les infirmières, mais dans les hôpitaux, la situation est très tendue. Les cheminots, ils n'ont pas digéré. Les enseignants sont également très tendus. S'y sont ajoutés avec cette réforme les professions indépendantes. Et le risque pour le gouvernement, c'est que cette réforme des retraites, même si elle est perçue plutôt juste, cristallise d'autres mécontentements et devienne le prétexte à fédérer tout ça. Donc c'est une des 3 raisons qui, à mon avis, explique cette prudence et le fait qu'on va discuter longtemps. Les 2 autres raisons, il y en a une qui est classique, c'est parce qu'il y a une élection municipale et que les maires ou les candidats ont dû dire au gouvernement « c'est peut-être pas le moment d'agiter le sujet en pleine campagne ». Donc ça se fait quasiment sous tous les gouvernements. Et puis la 3e, c'est qu'Emmanuel Macron a promis à l'issue des grands débats la co-construction, la coproduction des réformes, et que c'est la grande réforme de la fin du quinquennat, parce qu'après, il n'y en aura pas d'autres très grandes, et que voilà, celle-là doit donner l'exemple.
Gilles Bornstein.
Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, on s'intéresse beaucoup à la réforme, savoir si elle va être dure ou pas. Mais peut-être que ce qui va être dur, c'est avant la réforme, parce que Édouard Philippe a dit quelque chose hier qui est passé inaperçu. Il a dit « il faudra que le régime soit équilibré au moment où la réforme s'appliquera, c'est-à-dire en 2025 ». En 2025, ça veut dire que d'ici 2025, le gouvernement...
Ce sont les fameux 10 milliards.
Le gouvernement va certainement prendre des mesures pour corriger le régime, pour corriger les finances, avant même de le réformer.
Allez, 20h28 sur France Info. Nous allons marquer une pause. La météo, le rappel de l'info, et nous allons revenir à Cédric Villani. Est-ce que implique cette candidature dissidente à Paris? À tout de suite.
Bonjour, c'est Lucie Barbarin. C'est un plaisir de vous réveiller tous les matins sur France Info avec Xavier Monferrand qui m'accompagne pendant deux heures.
Oui, le 5-7 ça pique, hein, mais avec de l'insolite, du sport et de la bonne humeur, surtout on a le privilège de vous réveiller.
Vous retrouvez également Anne Barral et son billet vert.
Les marques promettent de réduire aussi leurs émissions de CO2. Alors,
et on ne pouvait pas le rater, d'Olivia Leray.
Oui, je crois qu'on peut le dire ce matin, c'est d'ores et déjà la plus belle histoire de la saison.
Ravi de vous retrouver et à demain.
À demain.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions, avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Un temps agité sur l'extrême sud-est, entre le Var, les Alpes du Sud, le nord de la Corse, ça se gâte. On attend des pluies soutenues, parfois orageuses cette nuit. Elles persisteront demain des Alpes du Sud jusqu'au nord de la Corse. Sur le continent, ça s'arrangera en fin de journée. Il faudra encore patienter sur la Corse. Du Jura jusqu'au nord des Alpes et au Var, un ciel nuageux, parfois inondé sur le sud de la Corse. Des nuages aussi près de la Manche. Plus épais l'après-midi à l'approche d'une perturbation. Le vent de sud-ouest se renforcera jusqu'à 50-60 km à l'heure. Ailleurs, beaucoup de soleil, mais toujours du vent fort sur le sud-est. 70 à 80 km à l'heure. Il fera bien frais le matin, 3 à 10 degrés au nord, 6 à 13 au sud, encore 15 à 18 pour le sud-est. L'après-midi, 18 degrés à Brest, 21 à Lille, à Mulhouse, 22 à Paris, Nevers, Lyon et Limoges, 23 degrés à Nantes, 24 à Bordeaux, à Toulouse, 25 degrés à Nice et 28 à Montpellier.
Sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Le maire de Septèmes-les-Vallons au nord de Marseille ouvre ce soir une salle pour accueillir les habitants qui seraient incommodés par les fumées. Un incendie s'est en effet déclaré sur le territoire de cette commune près de l'autoroute en fin d'après-midi. 300 pompiers sont mobilisés. Olivier Martoc.
Les Canadairs sont entrés en action mais les largages sont compliqués. Cet incendie touche la ville de Septèmes-les-Vallons. Il y a de nombreuses habitations et les tonnes d'eau déversées du ciel peuvent faire de gros dégâts. Le principal problème pour les secours, c'est l'accès à l'incendie. L'autoroute A51 qui traverse la commune située aux portes de Marseille est fermée. Il y a des embouteillages monstres, que ce soit à Marseille et dans sa périphérie. Et donc les pompiers, au nombre de 300 pour l'instant, ont du mal à accéder sur les pentes. Et puis il y a surtout ce vent qui ne faiblit pas. Le Mistral souffle toujours à plus de 80 km/h, ce qui attise les flammes. Les pompiers, toutefois, estiment être en mesure de contenir cet incendie. Même si la fumée qui se dégage gêne énormément les habitants, aucune habitation pour l'instant n'a dû être évacuée. Septèmes-les-Vallons, Olivier Martoc, France Info.
Air France et Airbus ne sont pas responsables du crash du vol du Rio-Paris en juin 2009. Il y a eu une conjonction d'éléments imprévisibles, comme ces sondes Pitot chargées de mesurer la vitesse de l'avion qui avait gelé. Mais la cause directe de l'accident est la perte de contrôle de l'appareil par l'équipage. Voilà la conclusion des deux juges d'instruction qui prononcent donc aujourd'hui un non-lieu général. 10 ans après ce drame qui avait coûté la vie à 228 personnes, l'appareil avait brutalement décroché avant de s'abîmer dans l'Atlantique 3 longues minutes plus tard. Ce non-lieu provoque la colère des familles des victimes. Leur avocat compte faire appel. Depuis la Révolution, les citoyens rendent la justice aux côtés des magistrats pour les crimes les plus graves. Mais depuis ce matin, un nouveau type de tribunal est testé dans 7 départements. Il s'agit d'une cour criminelle composée uniquement de 5 magistrats qui vont juger les crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion. C'est le cas par exemple à Caen où un homme comparaissait aujourd'hui pour tentative de viol. Il est condamné ce soir à 2 ans de prison ferme. L'audience s'est révélée moins solennelle qu'en cour d'assises. Il y a moins d'experts, moins de témoins appelés à la barre et le procès dure moins longtemps. Un avantage pour le ministère de la Justice. Une justice au rabais, dénoncent de nombreux avocats. L'économie, tous les vols d'Aigle Azur annulés à partir de demain soir. La compagnie aérienne l'indique ce soir alors qu'elle a été placée en redressement judiciaire lundi. Deuxième compagnie de France, Aigle Azur assurait principalement des liaisons avec l'Algérie. La compagnie ne peut pas garantir de dédommagement à ses clients. Plutôt être mort au fond d'un fossé que de demander un report du Brexit. Déclaration il y a quelques minutes ce soir de Boris Johnson à Londres. Le Premier ministre britannique maintient donc coûte que coûte sa position malgré le vote des députés hier qui refuse une sortie de l'Union européenne au 31 octobre sans accord. Boris Johnson, qui n'a même plus le soutien de son propre frère Joe Johnson, a claqué la porte du gouvernement. C'est le 23e élu conservateur qui tourne le dos au Premier ministre britannique. 20h33 minutes, on retrouve Jean-François Killy pour les informer la suite.
France Info, les informer. Jean-François Killy.
Les informer avec Véronique Reil-Soult, la présidente de Dentsu Consulting, avec Pascal Jalabert, rédacteur en chef des informations nationales des quotidiens du groupe Ebra, François Reinhardt, journaliste à l'Obs et écrivain, Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Cédric Villani, candidat dissident à Paris depuis hier soir. Cela dépasse d'ailleurs la seule bataille municipale dans la capitale. A-t-il trahi un idéal, celui du macronisme? Marlène Schiappa, qui était Gilles Bornstein, votre invité dans l'instant politique sur France Info, a eu des mots assez durs.
Moi, je crois qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le crémier, sa bonne humeur, comme on dit chez moi. Stanislas Guérini a dit qu'il ne comptait pas l'exclure. Cela dit, moi, je note que Cédric Villani s'est auto-exclu de La République En Marche. D'ailleurs, moi, j'ai bien écouté ses propos hier. En fait, Cédric Villani, il ne remet pas en cause uniquement la commission d'investiture. Ce qu'il remet en cause, c'est le macronisme.
C'est une trahison, Gilles Bornstein. C'est ce qu'elle dit, en substance, non ?
C'est ce que La République En Marche a dit en boucle depuis une semaine. Mmh. Il trahirait. Dans les faits, c'est vrai, il a signé une charte. Lui-même a bénéficié de l'investiture, on le sait. Théoriquement, quand on fait partie d'un parti, on en accepte les règles. Voilà, maintenant, la politique est ce qu'elle est. C'est vrai, il contrevient aux règles du parti auquel il appartient. Maintenant, s'il le fait, c'est qu'il y a un espace. Et s'il y a un espace, c'est que Benjamin Griveaux ne l'occupe pas entièrement. Paris, c'est Macronland, théoriquement. 35% des voix à la présidentielle au premier tour. 35%. 33% aux européennes, en dépit de la faiblesse supposée de Nathalie Loiseau. Donc n'importe quel candidat investi par La République En Marche devrait emporter le match. Benjamin Griveaux ne l'emporte pas, et bien ça crée de l'espace.
Pascal Jalabert, pas d'exclusion, sinon ce serait ouvrir une sorte de boîte de Pandore, hein, parce qu'il y a d'autres dissidences dans d'autres villes françaises.
Je vais faire mon provincial de service. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout les candidats LREM qui n'ont pas été investis dans plusieurs villes de province, ben ils vont dire « je fais mon petit Villani ». À Montpellier, vous avez par exemple Patrick Vignal, qui est un député LREM, qui voulait à tout prix être investi. On lui dit « écoute, non, on va plutôt faire un accord avec le maire sortant ». Il dit ben, « maintenant, terminé ». À Lille, il y avait le choix entre deux candidates. Eh bien, celle qui n'a pas été investie, elle a dit ben, « j'y vais quand même ». Et puis d'autres qui sont en train de prévenir « voulaient pas m'investir ». Maintenant que M. Villani l'a fait. Donc la boîte de Pandore est ouverte à La République
En
Marche.
Elle est ouverte, vous dites, parce que ça va se discuter.
Elle est ouverte. Ils ont beaucoup critiqué le vote militant, que c'était une affaire de vieux parti, mais il avait quand même une vertu, c'est que le candidat, la candidature qui était battue par les militants, c'était plus difficile de contester.
Oui, enfin, alors, en souvenir du PS,
François Hollande a gagné.
Attendez. D'abord, ce que vous dites, Pascal Jalabert, est extrêmement précieux, cette espèce d'inventaire assez étonnant, parce qu'on se rend compte que ça va se produire dans d'autres villes, communes, agglomérations importantes. Ce n'est pas un provincial qui le dit, mais foi d'un banlieusard et insulaire. François Reinhardt, est-ce qu'au fond, ce parti n'est pas tenu?
En tout cas, en général, les partis ne sont plus tenus. La discipline de parti existe de moins en moins, et moi, ça me réjouit pas. Les partis sont là pour faire l'expression des suffrages. C'est un décor institué qui sont très importants pour faire une démocratie, et de moins en moins, ils sont respectés. Et c'est général. Là, vous parliez de ce qui se passe là, mais souvenons-nous de 2017, effectivement, avec Hamon qui est investi par les candidats, par les militants du PS, enfin même pas les militants d'ailleurs, par la population sympathisante du PS, et après Valls qui dit mais je m'en fous, je voterai pas pour lui. Ça devient de plus en plus comme ça, et c'est pas un bon signe pour une démocratie. Dans une démocratie, il faut respecter. On appartient à un parti, il faut respecter l'ordre.
Vous regrettez qu'il n'y ait plus de discipline dans ces formations politiques, Gilles Bornstein?
Moi, je pense que quand même, les primaires, comme disait Churchill sur la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Les primaires, pourquoi? Pareil, parce que Emmanuel Macron, tout ce que François Hollande avait fait, fallait faire l'inverse. Donc le PS, il y avait des primaires, donc on ne les faisait pas. Et vous avez pas tort. Il a dit, moi, je suis pas passé par les primaires et je suis président de la République. Benoît Hamon, il est passé par les primaires, il a fait 4%. Il a fait 6%. C'est vrai. Mais ce qu'on disait, c'est ce que les marcheurs disaient, c'est l'énergie qu'on met dans la campagne des primaires, on ne la met plus dans la campagne après. Et puis, les plaies sont compliquées à cicatriser. Mais là, ils ont les inconvénients sans les avantages. Oui. Parce qu'ils ont les plaies, ils ont la guerre Macron, la guerre Villani-Griveaux, sans avoir la 3 ou 4 000 Parisiens qui auraient désigné un candidat, ça faisait quand même une légitimité. Oui. Ça faisait quand même une légitimité. Et pour revenir sur ce que vous disiez, les exemples que vous citez sont pas tout à fait les mêmes, parce que c'est vrai qu'il y a chez les marcheurs n'aiment pas que le parti fasse accord avec des partis de l'ancien monde. À Lille, ils ont fait accord avec une adjointe de Martine Aubry. Ils veulent défendre leur propre couleur.
Et puis il y a de la frustration.
Il y a de la frustration, mais parce qu'ils ne veulent pas d'accord avec les Républicains, ils ne veulent pas d'accord avec le PS.
Alors, après tout, Gilles, l'enseignement du macronisme, est-ce qu'au fond, ce n'est pas la grande théorie de la rupture, comme disait jadis Nicolas Sarkozy, qui avait initié le mouvement dans les années 2000, une forme de transgression. Véronique Rel-Soult, est-ce que l'opinion est sensible à cette démarche du mathématicien?
Alors, du mathématicien, oui, mais pour juste revenir sur ce que vous disiez sur la consultation des gens, c'est dans l'ADN de En Marche. Et en fait, ce qu'on lit les uns et les autres, disent, oui, mais nous, on aimerait bien être consultés quand on est sympathisant, et il y a...
Mais la transgression, c'est aussi l'ADN d'En Marche. Hein.
Mais en fait, il n'est pas condamné Villani sur les réseaux sociaux. En tout cas, on voit pas une condamnation de Villani, c'est plus une réclamation de, et dans le fond, est-ce qu'il ne faudrait pas nous écouter un peu plus, nous consulter un peu plus, et est-ce que dans le fond, les candidatures devraient pas tenir compte de l'expression des sympathisants
François, on y est toujours, cette sorte de démocratie participative.
Alors justement, il y a autre chose qui ne me réjouit pas sur le plan de la démocratie, c'est que je ne vois pas bien en quoi il propose une offre différente de l'autre candidat. Et même, je regardais la Villani, Griveaux, Ganzer, qui sont Ganzer ex-PS, enfin, où je pense qu'il était au PS, j'imagine. En tout cas, il était conseiller de Hollande. Oui. Et même Hidalgo, je vois pas très.
Et grosso modo, ils sont.
Et
Béliard.
Alors, Béliard, lui, à la limite, il a un brin d'écolo qui peut être différent. Mais tous les autres,
on va l'écouter dans un instant, David.
Ils ont à peu près le même
programme. Vous voulez dire quoi? Ce sont les mêmes. C'est un peu la même clientèle électorale.
C'est la même clientèle électorale et le même programme. Le seul truc qu'ils ont, c'est moi qui serai un meilleur maire de Paris, d'accord? Mais ton programme, c'est le même que celui du voisin. Alors, ils devraient être ensemble, tous ces gens-là.
Vous soulevez un point important. On va en discuter dans un instant, 20h40 sur France Info. Tout d'abord, un rappel de l'info avec Augustin Arrivé.
Politique. Enquête. Sport.
De grosses difficultés de circulation ce soir autour de Marseille, autoroute A7 et A51 coupées à cause d'un feu de végétation près des voies à Septem-les-Vallons dans les Bouches-du-Rhône. 200 pompiers sur place, les soldats du feu très occupés dans le sud et l'ouest de la France aujourd'hui. 150 hectares brûlés à Conques-sur-Orbiel dans l'Aude, pareil en forêt de Lancôme dans l'Indre. Et puis les enquêteurs parlent d'un probable incendie criminel en Charente-Maritime à Bédenac. 200 hectares ont pris feu. Les consultations syndicales ont commencé à Matignon au sujet de la réforme des retraites. Plus de 7 Français sur 10 estiment que le système actuel ne permet pas de bénéficier d'une retraite correcte. Sondage Odoxa Dentsu Consulting ce soir pour France Info et Le Figaro. Cette étude révèle aussi une méfiance envers la consultation citoyenne que veut lancer le gouvernement sur le sujet. 61% des sondés pensent qu'il s'agit surtout d'une stratégie politique pour désamorcer les contestations. Le programme alimentaire mondial va envoyer 8 tonnes de nourriture aux Bahamas, l'archipel dévasté par l'ouragan Dorian. 20 morts selon le bilan toujours provisoire. Plus de 70 000 personnes ont besoin d'une aide d'urgence d'après les Nations Unies. Ouragan rétrogradé en catégorie 2 sur 5. Il frappera les États-Unis dans la nuit. Et puis la première demi-finale de l'US Open de tennis. Ce sera autour d'une heure du matin avec d'un côté du filet une Ukrainienne, Elina Svitolina, et de l'autre l'Américaine Serena Williams qui pourrait remporter son 24e titre en Grand Chelem.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et puis, il y a le plus écolo que moi, tu meurs sur fond de greenwashing politique. Cédric Villani, qui a clamé hier soir qu'il serait le premier maire écologiste de Paris. J'ai posé la question à David Belliard, ce qu'il en pense, président d'Europe Écologie Les Verts, le groupe au Conseil de Paris, évidemment candidat écologiste dans la capitale, invité du 18-50 de France Info.
Tout le monde nous dit, mais je suis plus écolo qu'écolo. Mais vous savez, c'est pas juste une étiquette. L'écologie, c'est pas en fait une petite étiquette marketing qu'on prend parce que il y a un contexte politique particulier.
Mais vous n'êtes pas propriétaire des sujets quand même.
Personne n'est propriétaire des sujets. Et moi, je vais vous dire, je suis très content qu'il y ait aujourd'hui des concurrents, des responsables politiques qui viennent sur certains de nos sujets. Mais pour Paris, l'écologie, et partout ailleurs d'ailleurs, eh bien, l'écologie, c'est aussi une histoire de cohérence, c'est une histoire aussi de courage.
François Reinhardt, vous disiez tout à l'heure que les autres candidats étaient un peu peu ou prou sur les mêmes, on va dire, électeurs, mais là, l'écologie, tout le monde se l'arrache, hein.
Oui, bah alors là, effectivement, tant mieux, mais pour faire quoi? Effectivement, il a raison, cet homme-là, hein, si c'est, comme vous le disiez, de repeindre en vert le greenwashing, c'est-à-dire que c'est juste des paroles et que ça ne sert à rien, bon voilà, mais en même temps, on voit que quand on essaie de l'appliquer, l'écologie, ça fait beaucoup râler. Hidalgo, il y a un truc qui un grand mystère, j'aimerais bien que les éditorialistes politiques sur le tableau m'expliquent, pourquoi est-ce qu'elle est à ce point haïe, je ne sais pas, sur les réseaux
ça
sociaux.
Ça va mieux,
hein. Enfin, sur les réseaux sociaux, c'est vertigineux, j'ai l'impression que c'est, il suffit de défendre Anne Hidalgo, enfin, sur un truc, et tout le monde tombe dessus, ça me paraît très mystérieux, ça me paraît très injuste.
Ça va mieux, vous dites Gilles Bornstein.
Oh bah oui, les sondages. Enfin, elle était vraiment au fond du trou. Certainement après l'échec de la reconduction de Vélib, parce que ça n'allait pas.
Oui, mais
du
ça, il faut reconnaître. Hein, tout à l'heure encore, voilà. J'ai dû en tirer quatre pour en avoir un
Vélib. Manifeste. Enfin, les enquêtes. Il y a un an, personne n'aurait parié un copec sur sa réélection. Aujourd'hui, personne ne sait. Elle a eu. Je ne dis pas qu'elle va être réélue, mais on ne peut pas dire qu'elle n'a pas de chance d'être réélue. Maintenant, pourquoi elle fait l'animosité sur les réseaux sociaux? Parce qu'elle a pris des décisions qui impactent la vie des gens.
C'est ça.
En bien pour ceux qui n'aiment pas la voiture et qui aiment le vélo, et en mal pour ceux qui aiment la voiture.
C'est ce que je voulais dire, c'est qu'elle prend des décisions qui vont dans le sens, pour le coup, plus d'écologie, c'est-à-dire de moins de voitures.
Il y a des gens qui s'appellent, il y a des gens qui s'appellent pas.
Pascal Jalabert, green, vert is beautiful, c'est ça?
Oui, et pas qu'à Paris, puisqu'on regarde aujourd'hui, au fur et à mesure, puisqu'on va arriver dans la période et on commence de déclaration des candidatures. C'est maintenant qu'on est en train de construire la liste, de bâtir les leaders. Et tout le monde est en train de préparer des programmes avec du transport en commun, des aires de covoiturage et promettre des programmes plus verts que verts. Donc là où M. Bédiard a raison, c'est qu'en effet, tout le monde s'approprie l'écologie. Alors pour moi, c'est de l'affichage. Il faudra voir après la mise en application des mesures concrètes.
Véronique
Hidalgo a fait des mesures avec des verres dans son équipe.
Sur ce peinturlurage en vert des uns et des autres, que dit-on?
C'est une demande systématique et le sujet du climat et de l'environnement. Enfin voilà, c'est aujourd'hui l'opinion publique est concernée. Ça n'est plus simplement un sujet un peu à part. Ça fait partie de la vie de tout le monde. Et pour revenir sur le sujet de Madame Hidalgo qui aurait pris des mesures très impopulaires et qui expliquerait pourquoi on ne l'aimait pas, c'est aussi la méthode qui a été beaucoup critiquée. C'est pas que le fond, c'est de dire, oui, bien sûr qu'il ne faut plus de voitures, mais peut-être pas du jour au lendemain, peut-être pas de cette façon-là.
Oui, donc globalement, vous voyez bien que ça ne marchera jamais. Il y a un truc qui me fait toujours rire, c'est le titre du Gorafi, tout le monde connaît Gorafi. C'est le pari insensé du Français qui a décidé qu'il ne râlerait pas pendant un an.
Je vous propose de prendre 2-3 minutes pour évoquer un sujet, on parlait de Anne Hidalgo, la maire socialiste, vous l'avez rappelé, ce mot est curieux d'ailleurs aujourd'hui, socialiste de Paris. C'est Bernard Cazeneuve, sera-t-il le sauveur du PS, l'ancien Premier ministre, et l'invité d'honneur des journées parlementaires du Parti Socialiste à Avignon. François Reinhardt, cette figure du PS qui serait une sorte d'alternance, alternative à Emmanuel Macron, c'est une fable ou ça prend forme?
Alors, pour l'instant, moi, ça m'a paru complètement surréaliste. Hein, je vous avoue, je pense que c'était un homme tout à fait honorable. Je pense que c'était un très bon ministre de l'Intérieur et un Premier ministre qui était très bien. Il a duré 6 mois, il s'est rien passé. Donc voilà. Enfin, il attendait, je dirais, les affaires courantes. Hein, c'est l'équivalent de Napoléon II dans l'histoire, celui qui n'a à peine régné. Mais en tout cas, là, je me disais, là, aujourd'hui, on est dans un monde, on est tous angoissés avec l'angoisse climatique. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la montée de la Chine, la guerre entre la Chine et Trump, etc. Et puis il y a Cazeneuve qui arrive, qui se pense un destin, et je vois le titre quelque part, je crois que c'est dans la Dépêche. Le seul truc qu'il a dit aujourd'hui, c'est la gauche sera perdue si elle n'a pas des idées. Ben oui, d'accord, mais lesquelles? Je me dis, ça me paraît surréaliste, si vous voulez.
Sévère, hein. Il se pense à un destin, Gilles Bornstein, mais il le réfute, hein.
Alors il paraît, ceux qui le voient disent que ça dépend des jours, c'est-à-dire qu'il y a des jours où il pense qu'il va reprendre, qu'effectivement il veut reprendre le flambeau. On sait qu'il y a une lutte sourde avec François Hollande, parce que Bernard Cazeneuve voudrait bien, et François Hollande, qui lui-même veut revenir, veut l'en empêcher. Il faut dire les choses, il est avocat dans un cabinet d'affaires, il gagne énormément d'argent, Bernard Cazeneuve aujourd'hui, donc voilà, il y a des jours où il veut, il y a des jours où il veut pas. Et comme tous ces gens qui ont eu un destin, il veut bien, mais il veut pas se faire toutes les fêtes de la rose, oui, les unes après les autres. Il veut qu'on l'appelle, il veut qu'on l'appelle et que tout le monde vienne le chercher. Sur le fond, je pense qu'il y a un problème, c'est qu'on a vu que les socialistes voulaient désormais incarner une espèce de sociale écologie. Et pour l'instant, Olivier Faure, qui a réussi à sauver son groupe au Olivier Faure qu'on voit là, ne le fait pas si mal que ça. Bernard Cazeneuve, qui a été maire de Cherbourg, à La Hague, où il y a Areva, peut-il incarner cette sociale écologie? Je suis comme vous, je trouve que c'est
Un petit côté grand écart, en termes d'image en tout cas.
Je suis pas certain qu'il peut incarner ce que veut être le PS.
Alors, demain. Pascal Jalabert, Jean Jaurès, François Mitterrand, Lionel Jospin, François Hollande, puis Bernard Cazeneuve.
Moi, je n'irai pas encore jusque-là. Le Parti Socialiste aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un parti d'élus locaux. Il faut quand même, il n'est pas encore enterré. Il y a 4-5 présidents de région. Il y a encore quelques départements. Et il y a des maires de grandes villes. Lille, Rennes, Nantes, Cambrai, Dijon, on peut en énumérer d'autres. Donc, le PS n'est quand même pas enterré. Et la gauche existe encore dans ce pays du point de vue idéologique. Donc, du coup, avant, je crois, de parler de Bernard Cazeneuve comme un des murs ou d'un autre.
Mais c'est pas le même enjeu.
Non, c'est pas le même enjeu, mais il faut peut-être...
Que Nathalie Appéré, elle sera peut-être réélue maire de Rennes, certainement même, mais elle sera pas candidate à la présidentielle.
Ah, bien sûr que non. Non, mais sans un réseau d'élus locaux, s'il ne parvient pas à garder tout cela, le PS ne repartira pas.
Mais
ce n'est pas en venant d'en haut... Ce n'est pas avec quelqu'un qui va arriver comme ça d'en haut, et c'est pas Emmanuel Macron, mais Bernard Cazeneuve.
Et simplement, s'il arrivait en disant, voilà, j'ai une idée, le nouveau logiciel de la gauche, ça doit être celui-là,
attendez,
c'est celui
que je vais... candidat.
Oui, mais là, il dit rien, donc c'est absurde.
Attendez, Véronique Reilsoult, est-ce qu'il est question, sur les réseaux sociaux, notamment de Bernard Cazeneuve et du Parti Socialiste?
C'est gênant comme question.
Je dis ça sans aucune arrière-pensée.
Je vous dis que non, malheureusement, on n'en parle pas vraiment, c'est pas vraiment un sujet.
Plus sérieusement, François Reynard,
on va dire que les militants, ou en tout cas les sympathisants socialistes qui diminuent petit à petit sur les réseaux sociaux, en tout cas dans l'affichage, dans leur bio, enfin voilà, ne parlent pas de M. Cazeneuve plus que ça.
Pour conclure ce soir sur ce sujet, François Reynard, et pour prolonger ce que disait tout à l'heure Pascal Jalabert, au fond, quelque part, le résultat des futures élections municipales, c'est loin, c'est en mars, ce sera peut-être la bonne jauge pour voir ce que devient le Parti Socialiste.
Non, je crois pas, parce que il y a énormément de maires socialistes qui vont être réélus parce que sont de bons maires, mais c'est pas ça qui fait que
ce le sera pas le bon
voilà
test.
Le, vous parliez de Jaurès, c'est une manière de penser le monde, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui il y a la classe ouvrière, il faut aider la classe ouvrière, et puis après la société de démocratie, hein, Blum, etc., c'est on va aider la classe ouvrière, on va aider les pauvres, mais en ne tombant jamais dans le totalitarisme communiste. C'est
puissance
ça le parti socialiste
locale.
Aujourd'hui il y a personne qui pense tout ça,
puissance locale, puissance nationale.
Oui, c'est ça.
Parce que si Martine Aubry, Anne Hidalgo, la maire de Rennes et la maire de Nantes sont réélues, ce qui est tout à fait probable aujourd'hui, ce sont quatre femmes aujourd'hui, le PS aura fait des élections municipales magnifiques, exceptionnelles. Ils vont triompher sur
les
plateaux.
Mais ça ne présume pas de la suite.
Ça ne présume pas d'une victoire nationale.
Et la suite pour nous, en tout cas, ce sera le Brexit. Dans un instant, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info, Augustin arrivé.
L'association Entraide et Solidarité AF447 annonce sur France Info faire appel après le non-lieu général décidé dans le crash du Rio Paris. Non-lieu pour Airbus comme pour la compagnie Air France. Décision des juges d'instruction aujourd'hui. Les deux entreprises étaient poursuivies pour homicide involontaire. 228 morts, c'était il y a 10 ans. Édouard Philippe démarrait ce matin les consultations des syndicats sur la réforme des retraites. Ça se poursuivra demain. Réforme que le MEDEF souhaiterait pour le début de l'année prochaine, même si la CFDT notamment prévient que ce sera une négociation longue et compliquée. Force ouvrière s'oppose par exemple au système par points que veut mettre en place le gouvernement. Ça ne s'arrange pas pour Aigle Azur. La compagnie aérienne annule l'ensemble de ses vols à partir de demain soir. Impossible à assurer étant donné les difficultés financières actuelles. Aigle Azur placé lundi en redressement judiciaire. Une quarantaine de députés européens écrivent au président ukrainien. Ils lui demandent de ne pas livrer à la Russie l'un des suspects de l'explosion du vol MH17. Cet avion abattu au-dessus de l'Ukraine pendant la crise de Crimée, suspect libéré aujourd'hui alors que son procès doit commencer l'an prochain aux Pays-Bas. Et puis, le mondial de basket se passe jusqu'ici très bien pour les Français. Compétition masculine en Chine, les Bleus ont battu la République dominicaine 90 à 56 cet après-midi. Ça veut dire que la première place de leur poule est assurée et la qualification aussi pour ce qui sera samedi l'équivalent d'un 8e de finale, match contre la Lituanie.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Plutôt être mort, Boris Johnson a préféré cette option, être mort au fond d'un fossé, plutôt que de demander le report du Brexit, report qui a pourtant été voté la veille par les députés à Londres. Boris Johnson, qui avait besoin d'un petit peu respirer, qui a reçu son homologue israélien Benjamin Netanyahou au 10 Downing Street, puis Mike Pence, le vice-président des États-Unis, qui a déclaré ceci.
J'ai parlé ce matin au président Trump, votre ami, et il m'a demandé d'envoyer ses meilleures salutations et de vous assurer que les États-Unis soutiennent la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Mais il voulait aussi que je vous dise que les États-Unis sont prêts, disposés et capables de négocier immédiatement un accord de libre-échange avec votre pays.
Alors François Reinhardt, Boris Johnson a perdu son bras de fer au Parlement, mais il a gagné une fantastique promesse d'accord avec les États-Unis.
Oui, c'est-à-dire qu'ils vont devenir une petite colonie américaine. Et c'est-à-dire que le destin de l'Angleterre, malheureusement, du Royaume-Uni, malheureusement, c'est sorti de la puissante, l'Union européenne. On pense toujours qu'elle est impuissante, mais elle est puissante commercialement. C'est une grande puissance commerciale, c'est la première puissance commerciale du monde. Il sort de ça, et ces accords de libre-échange, ça veut dire qu'ils vont bouffer du poulet aux hormones américains, ils vont avoir tout ce que veulent les Américains. Comment est-ce que Johnson.
La malbouffe, c'est déjà un sujet en Grande-Bretagne.
Oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr, c'est une tradition. Comment est-ce que il pense Johnson qu'il va avoir un traité égal, que le petit Royaume-Uni va avoir un traité égal avec la puissance ça le sert aujourd'hui parce que ça fait croire aux Anglais que demain il y aura des lendemains radieux
après
le Brexit,
demain,
mais c'est évidemment que tout ira mal après.
Pascal Jalabert, pour poursuivre ce que dit François Reinhardt, la Grande-Bretagne qui deviendrait de fait à terme le 51e État américain.
Oui, alors Johnson, je crois que son rêve c'était de faire du Royaume-Uni une sorte de grand Luxembourg et de Grande Irlande réunie.
Singapour sur manche.
Mais bon, il faut que. Alors d'abord, pour faire un Luxembourg, une Irlande, un Singapour, déjà, il n'a pas la monnaie pour ça. Parce que l'Irlande, si les entreprises viennent, c'est qu'elle est déjà en zone euro. Donc ça s'arrange bien, Luxembourg aujourd'hui. Et ensuite, ce sont des petits pays. 3,5 millions d'habitants en République d'Irlande, 1,5 million au Luxembourg. C'est quand même le Royaume-Uni, 60 millions d'habitants. Donc vous ne pouvez pas imaginer construire un modèle comme ça. Et à mon avis, il va droit dans le mur s'il se coupe de l'Europe pour s'amarrer aux États-Unis, qui en effet, eux, ils n'ont qu'un but, c'est leur vendre leur production agricole, leurs voitures, tout ce que vous voudrez. Et l'Angleterre, qui n'a plus de capacité industrielle comme elle avait il y a 30 ans, qu'est-ce qu'elle va apporter dans l'autre sens? Rien.
Gilles Bornstein, la Grande-Bretagne, cheval de Troie des États-Unis le continent européen, c'est possible ou pas?
Son projet de Singapour sur Tamise, alors moi, c'est pas du tout ma tasse de thé.
Mais il y a déjà les immeubles.
Mais je suis pas d'accord avec vous, justement. Il a la monnaie pour ça. Comme ils ne sont pas dans l'euro, il veut une monnaie très faible, dévaluer la monnaie pour redevenir compétitif et faire une sorte de dumping fiscal pour que toutes les entreprises viennent s'installer en Angleterre comme elles l'ont fait en Irlande.
C'est pour ça que l'Europe a intérêt à se protéger.
Quand il faudra exporter en France, il y aura des droits de douane et des taux de change.
C'est pour ça qu'ils vont les mettre.
Et voilà, s'il y a des droits de douane et des taux de change, ça ne marche pas.
Tous en même temps.
Allez, d'Irlande en France aujourd'hui, vous n'avez pas de droits de douane, vous n'avez pas de taux de change. La différence est importante.
Avec une monnaie faible pour être compétitif et une faible imposition, ce n'est pas mon modèle, mais...
C'est sûr que l'Europe doit faire très attention à ça, parce qu'effectivement, quand il veut faire ça, il veut faire Thatcher puissance 10. Ça veut dire, quand on dit dumping, il veut faire dumping social, dumping fiscal, etc. Je coupe, on arrête les syndicats, la protection des travailleurs, etc. On fait un pays, il veut faire Singapour. Singapour, c'est un pays dans lequel les gens n'ont aucune protection sociale. Donc, pourquoi, du coup, ça veut faire que les entreprises peuvent avoir des produits très très peu chers, parce qu'ils sont faits par des ouvriers qui coûtent très peu cher. Et l'Europe l'Europe doit se protéger par rapport à ça. Il veut nous saborder par rapport à ça.
Sur l'état de l'opinion vis-à-vis de ce qui se produit outre-Manche, Véronique Reilsoult, j'ai volontairement zappé les détails du feuilleton Brexit parce que ça devient compliqué.
Il y en a un qui est rigolo, sujet la trahison de son frère.
Oui, la trahison du frère, absolument. La trahison du frère, oui, ça devrait plaire, ça d'ailleurs, sur les commentaires.
En fait, c'est un peu à l'image de la discussion que vous avez là, c'est qu'il y a à peu près 4 millions de messages sur cette semaine sur le sujet, comprenez juste le mot Brexit. Et en fait, il y a évidemment la très grande majorité, c'est au Royaume-Uni. Et en fait, il y a des discussions qui n'ont rien à voir entre ceux qui sont sur place en train de le vivre et ou en tout cas de fantasmer dessus et les gens à l'extérieur qui regardent en disant mais ils sont inconscients ou il faut se protéger. Et globalement, les Anglais, ils sont complètement perdus. Ils ne savent plus du tout comment réfléchir. Par moment, ils se disent, bah finalement, c'est peut-être une formidable idée. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont entendu sur les États-Unis, ils se disent, il y a peut-être une voie pour en sortir. Enfin, globalement, c'est un état de dépression des Anglais qui a un point difficilement imaginable.
Et c'est le mot de la fin avec vous, Véronique Reilsoult. La une de l'Obs, François Reinhardt, cette semaine.
C'est sur le nouveau livre de Thomas Piketty. Alors j'ai oublié le nom du livre, c'est sur Capital et quelque chose, c'est un livre formidable, hein. J'ai commencé à le lire, c'est très très bien, et on fait des extraits, etc., une interview de Piketty.
Et avec vous Pascal Jalabert, peut-être un exemple d'un des journaux du groupe.
Oui, alors demain, le sujet, ce qu'on appelle le fait du jour, c'est-à-dire qui tient les premières places d'information nationale, c'est la réforme des retraites.
Évidemment.
Évidemment, on va essayer d'expliquer par catégorie d'âge ce que ça pourrait donner, c'est pas facile.
Pascal Jalabert, François Reinhardt, avec vous aussi Gilles Bernstein et Véronique Reilsoult, merci d'avoir participé à ces informés. Pour ma part, je vous dis à demain pour une toute nouvelle édition. Bonne soirée.